l'écoute des programmes de VOA Afrique.
Ravi de vous retrouver sur VOA Afrique pour parler du sport comme tous les lundis, vous le savez. Sporama, 30 minutes d'information et de débat avec mes consultants que je salue sans plus tarder. Lawadine Kosuro, toujours fidèle au poste. Bonsoir Lawal.
Elie, bonsoir et bonsoir également aux auditeurs de VOA Afrique.
Ahmedine Sy est lui du côté de Columbus dans l'Ohio. Ahmedine, bonsoir.
Bonsoir Elie, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
De Libreville au Gabon, Jules Valentin Ngoué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Élisée. Bonsoir à tous.
Un peu plus à l'est, nous avons Valdo Simon Yamba qui est à Kinshasa en RDC. Bonsoir Valdo.
Élisée, bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis Amine Birouk nous rejoint depuis Casablanca au Maroc. Amine, bonsoir.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
Le coup d'envoi du Tchad, c'est dans 5 jours et le doute plane toujours sur la participation du tenant du titre, le Maroc. Sporama, c'est parti. Bientôt, le début de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, le Tchad Tema, le vendredi, et l'incertitude plane toujours au sujet de la participation du Maroc. Amine, une chose est sûre, la CAF n'a pas encore donné une réponse favorable à la requête de la Fédération Royale.
Pour le moment, la Fédération royale marocaine de football n'a toujours pas reçu de réponse officielle de la part de la Confédération africaine de football. Il n'y a eu donc pour l'instant ni refus de la partie algérienne, ni acceptation de la requête de la FRMF concernant un vol direct spécial à partir de Rabat jusqu'à Constantine, là où se déroulera le premier tour en ce qui concerne l'équipe du Maroc qui se déplacera avec sa sélection U23. Je rappelle aussi les faits. Depuis août 2021, l'Algérie n'a plus de relations diplomatiques avec le Maroc. Pire encore, elle interdit le survol de son territoire à tout avion civil marocain ou immatriculé dans le royaume chérifien. Le Maroc estime que le cahier de charge peut et doit lui permettre de rejoindre directement Constantine par avion et n'attend que le feu vert de la Confédération africaine de football pour s'engager dans la compétition et chercher à défendre son titre pour la 3e fois consécutive. En attendant une réponse officielle, nous sommes dans l'incertitude. Les joueurs marocains sont entrés en concentration ce lundi et patienteront ou bien prendront leur mal en patience avant de savoir est-ce qu'ils vont participer à la compétition ou bien rejoindre leur club et poursuivre la Botola Pro.
Merci Amine. L'Algérie ne veut donc toujours pas permettre des vols directs sur son territoire. Jules, c'est cette position qui met en difficulté la CAF.
Oui Élisée, la décision extrême des autorités de fermer aux avions marocains l'espace aérien algérien en invoquant des considérations militaires en plus des éternelles frictions diplomatiques qu'on connaît depuis les années 70 entre les deux pays voisins met la CAF en difficulté. En effet, on se souvient que depuis l'attentat terroriste meurtrier qui avait endeuillé la délégation togolaise en route vers l'enclave de Cabinda lors de la CAN angolaise de 2010, la CAF a clairement rendu obligatoire le transport aérien des délégations sur de longues distances lors de ces compétitions. La partie marocaine, consciente de son bon droit, campe sur ses positions. C'est à l'Algérie de mettre de l'eau dans son vin. Et ainsi, en publiant déjà l'ordre de passage des pays devant accueillir les prochaines phases finales des CAN après Côte d'Ivoire 2023, où le Maroc se voit attribuer celle de 2025 et l'Algérie celle de 2029, la CAF a aussi posé un acte d'apaisement au profit du Tchad algérien qui apparaissait déjà comme un terrain d'affrontement indirect pour l'attribution au détriment de l'autre de l'organisation du Grand Rendez-vous de 2025. Alors que l'Algérie suspende sa mesure, que le bon sens reprenne ses droits et que le sport africain cesse d'être pris en otage, surtout au même endroit, pour des considérations qui n'ont rien à voir avec lui.
Une situation politique toujours tendue entre les deux pays qui ont montré leur intérêt d'organiser la CAN de 2025 retirée à la Guinée. Valdo, avantage psychologique pour le Maroc qui garde sa position.
Bien entendu, Élisée, psychologiquement, le Maroc reste sur une bonne dynamique d'avoir l'organisation de l'édition 2025 de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Les parcours marocains à la dernière Coupe du Monde de football avec une première quatrième place pour le continent africain demeure un élément majeur qui pourrait jouer positivement et lui permettre de faire la différence. Il faut également rappeler que le Maroc a été candidat à l'organisation de la Coupe du Monde. Comme pour dire, il n'y a pas à s'inquiéter pour les infrastructures. Par contre, l'Algérie de son côté semble ne pas digérer son absence à cette Coupe du Monde alors que le football est une école dans laquelle le fair play est un des enseignements de base, entraînant l'incertitude sur la participation du Maroc au CHAN pour des raisons autres que sportives, ne leur profite pas, surtout pas aux yeux des dirigeants de la CAF qui ont à leur tour un rôle important à jouer afin de permettre au football de demeurer fédérateur sur un terrain politique.
Outre le CHAN, l'Algérie organisera encore la CAN des moins de 17 ans en avril prochain, ce qui aura forcément un impact. Ahmedine, le pays focalise l'attention, c'est pour ça qu'il n'a pas droit à l'erreur.
Ah oui, Élisée, si l'Algérie veut organiser la CAN 2025, elle doit impérativement relever le défi de l'organisation de ce CHAN qui démarre ce vendredi, car si l'Algérie, qui a déjà bien organisé les Jeux méditerranéens d'Oran, relève le défi de l'organisation du CHAN, elle marquera sans aucun doute des points par rapport à sa candidature pour l'organisation de la CAN 2025 qui a été retirée à la Guinée. Mais comme vous le savez, parce qu'il y a la main, l'Algérie doit tout faire pour ouvrir, pour que le Maroc puisse participer à cette compétition, car pour le moment, la participation du Maroc est compromise à cause d'un différend politique, mais je pense que le sport va prendre le dessus sur la politique, car que ce soit le pays de l'Algérie ou le Maroc, double tenant du titre, qui avait représenté, qui vient de représenter dignement le continent africain, aucun des deux pays n'a le droit de jeter du sable sur cette compétition, et je pense que la sagesse va prévaloir des deux côtés, Élisée.
Lawal, la pression est dans le camp des Algériens.
Pression dans le camp des Algériens, je crois qu'on pourrait le dire, mais la pression est beaucoup plus sur la CAF, le comité exécutif, parce que...
Mais qui ne réagit pas,
pas jusque-là à 5 jours donc du coup d'envoi, qu'on n'ait rien compris et que le tenant du titre ne puisse pas participer et que l'Algérie refuse des vols directs. Il y a forcément un flou artistique qui entoure ce dossier. C'est bien malheureux pour le continent. C'est en Afrique qu'on a souvent ces difficultés.
La politique ne doit pas...
Regardez un peu comment les États-Unis et l'Iran ne s'entendent pas au plan politique. Mais quand il s'agit de football, les deux équipes se rencontrent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne puisse pas réagir, c'est là, moi, je tombe des nues quand la Confédération, ne réagit pas et laisse couler les choses comme ça. Pas fini, vous allez constater qu'ils vont peut-être donner forfait au Maroc, alors qu'ils auraient pu prendre une autre décision et mettre en demeure l'Algérie d'accepter que ça se passe, parce que c'est juste pour quelques jours. Je ne sais pas comment les gens réfléchissent à la CAF pour ne pas trouver solution à ces petits problèmes politiques qu'il y a entre deux États voisins. Il faut le préciser, Élisée.
Voilà qui est clair. À noter que ce tournoi réservé aux joueurs locaux a lieu tous les 2 ans en alternance avec la CAN. Jingle. Ce CHAN 2023 en Algérie qui s'approche dans une atmosphère pesante. Outre l'affaire Algérie-Maroc, la RDC, double vainqueur du tournoi, n'a toujours pas signé le contrat de son sélectionneur Otis Ngoma. Valdo, les léopards locaux en Tunisie ont joué un match amical contre la Libye dans un climat pas si serein que ça.
Rien d'officiel comme contrat signé par Otis Ngoma, sélectionneur de l'OPA après une de la RDC, mais en coulisses, on parle des sérieuses garanties quant à ceux de la part du gouvernement congolais pour lui permettre de bien faire son travail. Quand on sait que celui de la sélection a signé avant même qu'il n'ait joué un match en jeu avec la sélection congolaise, donc allez-y comprendre. Mais est-il que, Élisée, cette situation n'influence en rien la détermination du staff technique sur ce qu'ils doivent faire pour ramener la RDC sur le podium de cette compétition. En dernier réglage en Tunisie, avant de prendre la direction de l'Algérie, les Léopards étaient en démonstration des forces face à la Libye, qu'ils ont battu 3-1 avec un Otis Ngoma très appliqué dans son coaching, puisque c'est à la seconde mi-temps et grâce aux changements opérés que la RDC a fait la différence en marquant 2 buts sur penalty. Après les 1-1 de la première période, ça s'annonce donc bien pour la RDC qui doit en principe jouer le Mali le mardi 10 janvier en dernier match de préparation.
Lawal, il ne peut pas y avoir de la sérénité dans le travail, surtout qu'à part le contrat, il y a aussi des primes non payées.
Non, Élisée, l'Afrique est malheureusement sujette à ce genre de problème. On ne peut pas recruter un entraîneur, ne pas lui faire un contrat et chercher à obtenir des résultats. C'est trop compliqué. Et la sérénité, on ne peut pas même espérer avoir une sérénité dans ce groupe. Et si l'entraîneur n'est pas assuré de ce qu'il va continuer le travail avec l'équipe, qu'est-ce que vous voulez qu'il donne? Il ne sera pas motivé, il y aura une démotivation totale de son côté, du côté des joueurs qui savent également que leur coach n'a pas un contrat avec la fédération. C'est un truc professionnel. Et quand on parle de professionnalisme, ce n'est pas dans ces conditions-là qu'on gère les gens. Non, je suis désolé de dire que nos autorités ont forcément quelques difficultés à comprendre ce qui se passe réellement dans le monde du football, Élisée.
Merci. Le Cameroun aussi a choisi la Tunisie pour cette dernier réglage avec un groupe de 25 joueurs. Et Jules, ce sera sans le meilleur buteur du championnat, Patient Wassou. C'est un choix surprenant.
Élisée, un choix qui peut paraître surprenant de prime abord au vu des statistiques actuelles de ce joueur prometteur. Mais les exemples de ce genre de situation ne manquent pas, tout dépendant des choix tactiques, de la cohésion, voire des objectifs visés par l'encadrement, en abordant en particulier les compétitions intermédiaires dont fait partie le CHAN. Pour la première raison citée, on peut prendre l'exemple de l'équipe de France où, malgré son âge et des statistiques en deçà de ceux de ses rivaux, au poste de pivot d'attaque, Olivier Giroud fait le bonheur de son sélectionneur Didier Deschamps. La nouvelle direction du football camerounais, tout comme son modèle marocain, a choisi pour objectif majeur la participation aux prochains Jeux olympiques. Celle-ci pourrait servir de rampe de lancement à une nouvelle génération gagnante, à l'exemple de celle des champions olympiques de 2000, qui permet le retour du Cameroun au premier plan dans les années 2000-2010. Alors, tout comme le Maroc, le Cameroun privilégie, pendant ce CHAN algérien, une répétition grandeur nature prioritairement réservée aux U23, bientôt confrontés à leur CAN qualificative, justement pour les Jeux olympiques. Alors, faisons leur confiance et laissons-les travailler.
Le Sénégal, de son côté, a choisi 23 joueurs après un dernier stage qui a lieu à Dakar. Alors, Amédine, le sélectionneur Pape Thiaw a fait confiance à des joueurs expérimentés comme le gardien de but Alioune Badara Fati.
Tout à fait, Élisée. Le coach de l'équipe nationale locale du Sénégal qui retrouve le CHAN après plus de 11 ans d'absence a fait confiance à des joueurs expérimentés comme le gardien de but du CAN Sport, Alioune Badara Fati, qui faisait partie d'ailleurs du groupe des Lions du Sénégal qui ont gagné pour la première fois de l'histoire la Coupe d'Afrique des Nations. C'était au mois de février dernier au Cameroun. Mais le sélectionneur de l'équipe nationale à prime du Sénégal va faire sans plusieurs de ses cadres qui ont été transférés à l'étranger durant l'intersaison. Et comme vous le savez, cette compétition est réservée exclusivement aux joueurs évoluant dans leur championnat. Donc, Pape Thiaw fera sans ses cadres, mais l'ancien attaquant des Lions du Sénégal de la génération 2002 pourra compter sur beaucoup de pensionnaires de génération foot. Il peut aussi compter sur les joueurs du CAN Sport. Ils sont 3 dans ce groupe. Je signale que en ce moment, l'équipe nationale poursuit sa préparation en Tunisie. Les Lions locaux ont d'ailleurs même joué contre le Niger, mais ils ont été tenus en échec. Score de la rencontre, 0-0. Ils vont poursuivre la préparation avec un dernier match amical contre le Congo avant de s'envoler à destination de la Tunisie. Je rappelle que le Sénégal est logé dans le groupe B en compagnie de la Côte d'Ivoire, de l'Ouganda et de la RD Congo et que les Lions affronteront les éléphants de la Côte d'Ivoire en match d'ouverture, Élisée.
À noter que le match d'ouverture de ce 7e CHAN mettra aux prises l'Algérie et la Libye. Jingle. ce même vendredi. La FIFA procédera au tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs. Amine Birouk, ce sera à l'Académie Mohamed VI de Salé.
Le tirage au sort aura plutôt lieu au complexe Mohamed VI de football, qui est un peu le nouveau siège du football marocain, avec sa salle de conférence, qui a déjà reçu les African Awards, et qui a reçu de multiples manifestations continentales, et qui s'apprête à accueillir sa première manifestation internationale avec ce tirage au sort, où seront engagés les champions d'Afrique, le Wydad de Casablanca, l'autre représentant africain, le finaliste de la Champions League, l'Ali, Auckland City, plus le champion d'Asie, le vainqueur de la Copa Libertadores, Flamengo, le champion de la CONCACAF et le super favori, le Real Madrid, qui a remporté en mai dernier la Champions League. On en saura un peu plus concernant le chemin du Wydad de Casablanca, concernant le possible adversaire du Real Madrid qui disputera ses deux rencontres à Rabat, c'est-à-dire la demi-finale le 8 février et une éventuelle finale au complexe sportif Moulay Abdellah à partir du 11 février. Et puis bien évidemment, il y aura des invités de marque, à savoir le président de la FIFA Gianni Infantino, le vice-président de la FIFA et actuel président de la CAF Patrice Motsepe et bien d'autres personnalités qui seront conviés à vivre ce grand spectacle qui annoncera le départ et le compte à rebours d'une compétition qui démarre le 1er février et qui se conclura le 11 du même mois à Rabat.
Merci Amine. Et comme vous l'avez dit, l'Afrique sera représentée par le Wydad de Casablanca, vainqueur de la Ligue des Champions et le finaliste malheureux, les Égyptiens d'Al Ahly du Caire. Amédine, il faudra jouer gros face au teneur du foot mondial tel le Real Madrid.
Oui, Élisée, les deux représentants africains n'auront pas la tâche facile, car cette compétition quand même regroupe la crème du football mondial version club. Certes, le tirage au sort n'a pas encore été effectué, mais si les clubs africains veulent réaliser une bonne performance, ils vont à coup sûr en découdre avec des monstres comme le Real qui est le champion en titre. Il y a également Flamengo du Brésil. Mais comme cette compétition se jouera au Maroc, tout reste possible, car une équipe comme le Wydad Athletic Club va sûrement tenter de surfer sur la performance de l'équipe nationale qui avait créé la sensation en se qualifiant en demi-finale de la Coupe du Monde pour la première fois de l'histoire. Je pense que cela peut constituer une source de motivation supplémentaire pour la WAC qui va jouer devant son public Élysée.
Lawal, une fois encore, le Maroc mettra en évidence sa capacité à organiser de grands événements.
Oui, Élisée, les infrastructures sont là. Au plan logistique, le Maroc n'a rien à envier aux plus grands pays européens. Au plan organisationnel, ils ont déjà eu une certaine expérience. Donc, fondamentalement,
ça les met en bonne position
pour la CAN 2025 qui semble leur revenir de droit, parce que les candidatures autour de cette CAN ne font peut-être pas le poids face à celle du Maroc.
Mais attention à Madjou Pinic.
Oui, bon, Pinic, il va se battre jusqu'à la fin. Et s'il se battait, qu'il obtenait, ça fera revenir la CAN 23 ans après au Nigeria. Et là, le Bénin aura une chance forcément d'organiser un tournoi majeur. Déjà que le Bénin a eu la chance d'abriter la finale de la Coupe de la Confédération, c'est déjà quelque chose de positif. Donc, attendons de voir. Mais il faut, si on arrache la CAN à la Guinée, le bon sens devrait donc permettre aux gens de la CAF de l'attribuer à un autre pays de la même région. Et là, ce serait justice faite à cette région.
Mais ça va se passer par vote.
Oui, le vote, il va se faire. Il faut pas l'oublier. Donc, espérons que Madou Pinic se batte jusqu'à la fin parce qu'il avait annoncé le retrait de la CAN à la Guinée. Les Guinéens ont régimbé, mais pas fini. Il a eu raison. Et on espère que aujourd'hui, il a été le premier à annoncer même la candidature commune du Bénin et du Nigeria. Espérons qu'il ait raison sur toute la ligne et que le Bénin obtienne cette opportunité d'aller à la CAN à nouveau après l'exploit de 2019 pour rehausser le niveau du football dans ce pays.
Merci Lawal. Cette Coupe du Monde des clubs se tiendra au Maroc du 1er au 11 février 2023. Jingle. Mais en attendant, toute l'Afrique aura les yeux rivés sur la Pologne et la Suède dans le cadre du championnat du monde masculin de handball. Les 5 sélections du continent africain y prendront part et dans le groupe G, Amine, le Maroc fera son entrée le vendredi face aux États-Unis.
La chance de l'équipe du Maroc demeure dans ce match inaugural face aux États-Unis, un adversaire qui n'a pas une grande tradition dans la discipline et qui n'a pas pour habitude de participer au championnat du monde. Les Marocains partent favoris pour peu qu'ils puissent jouer leur handball qui leur avait permis de finir troisième de la dernière CAN. Il est vrai aussi que c'est leur chance principale puisqu'ils sont engagés dans un groupe plutôt compliqué avec l'Égypte, quatrième des derniers JO, et quart de finaliste chez elle il y a 2 ans, et la Croatie qui a envie de prendre sa revanche après des championnats du monde en demi-teinte et une absence lors des derniers JO. Deux pays qui ont une tradition handballistique plutôt poussée face à un Maroc qui est habitué à participer aux championnats du monde mais qui n'a jamais réussi à tirer son épingle du jeu ni à donc franchir le cap du premier tour, ce qui serait une première, mais ça reste conditionné à une victoire face à l'équipe des États-Unis.
Dans le même groupe, l'Égypte, championne d'Afrique, croisera la Croatie. Jules, les pharaons restent l'espoir de tout un continent.
Bien sûr, Élisée. En fait, en Afrique et singulièrement en matière de handball masculin, l'Égypte est une équipe à part. Tout d'abord, la pratique de ce sport de main y est une tradition très anciennement ancrée, avec de solides équipes locales au label des habituelles institutions omnisports que sont Al-Ahly et le Zamalek du Caire, qui monopolisent les trophées continentaux depuis des décennies. Leur politique systématique de formation et leur solide organisation leur ont permis de générer en permanence des ressources humaines appréciées aussi à l'étranger. L'équipe nationale, qui en profite au plus haut niveau, fait depuis 2 décennies amplement jeu égal avec les nations mondiales les plus réputées que sont l'Espagne, le Portugal, les pays nordiques et d'Europe de l'Est, ou même la France, le pays le plus redouté de l'heure. Or, l'Égypte, en match de préparation samedi, vient de contraindre cette nation de référence à un score serré de 33-32, de bon augure pour la suite. Il n'y a pas de doute que pour cette Coupe du Monde qui commence mercredi, pour l'Afrique, il y aura une fois de plus, d'une part l'Égypte et d'autre part les autres.
Valdo, l'Afrique peut aussi compter sur la Tunisie pour réaliser de grandes performances.
Bien entendu, Élisée, la Tunisie peut faire des bonnes choses lors de cette Coupe du Monde de handball, messieurs, quatrième de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. La nation la plus titrée du continent a été décevante, mais semble bien s'être servie de ce qui peut être qualifié de contre-performance pour mieux affûter ses armes en prévision de la Coupe du Monde. Tenez, la Tunisie a fait un sans faute au tournoi des 4 nations fin décembre 2022 en alignant 3 victoires sur 3 oppositions face à la Corée du Sud, 35-32, 29-24 sur le Brésil et 32-31 sur la Pologne, l'un des pays hôtes de la Coupe du Monde de handball. Il y a de quoi faire confiance à cette nation qui a d'ailleurs poursuivi sa préparation avec une double confrontation face à l'Algérie qu'elle a emportée 32-30 et puis 28-25. Allez, il faudra maintenant ramener cette dynamique en phase finale des Coupes du Monde dans un groupe composé notamment du champion du monde en titre, les Danemark, les Bahreïn et la Belgique.
Les Aigles de Carthage, version handball logée dans la poule H, joueront le Bahreïn et puis les 2 derniers représentants africains à ce 28e championnat du monde, à savoir l'Algérie et le Cap-Vert, croiseront respectivement la Serbie et l'Uruguay. Voilà, merci de nous avoir suivis. Sporama, stop et fin. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Au revoir, numéro. Au revoir, numéro. Au revoir, numéro.